Des grands champions, on connaît précisément leur carrière, leurs exploits, leurs records, mais pas vraiment l'autre côté de leur médaille d'or. Et bien souvent, c'est les petites histoires derrière les athlètes qui leur permettent d'écrire leur grande histoire. L'impératrice de Russie, Catherine II, a dit « On ne juge pas un vainqueur ». Alors déjà, elle ne connaissait pas les réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, on peut toujours demander à un vainqueur de se juger lui-même. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec une des plus grandes championnes du sport français. C'est l'épisode 2 avec la boxeuse Estelle Yoka-Mosley.
Comment est-il ? Un champion du monde.
Champion olympique!
Champion, mon frère!
Question pour un...
Champion du monde!
We are the champions!
Ce qui m'intéresse, ce sont les super champions.
Alors, on va commencer par le début, hein. C'est mieux. Je voulais savoir comment tu t'es mise à la boxe. J'imagine que pour une fille, quand t'es plus jeune, c'est pas forcément le premier sport où tu te dis « ma fille, elle va faire de la boxe ». Comment t'es arrivée là? Est-ce que... C'est toi, par hasard? Est-ce qu'on t'a poussé? Est-ce que c'était tes parents?
Mes parents, le sport, c'est un peu comme l'école, c'est-à-dire on commence l'école et on commence aussi le sport. C'est une activité qui est indispensable au développement de l'enfant. Donc c'était naturellement qu'ils m'ont mis dans un sport. Donc ça a été de la danse classique, ça a été du patinage, ça a été de la natation. J'ai fait pas mal de sport et en fait, au bout d'un moment, j'avais envie de faire un sport de combat et faire un sport en fait, qui changeait beaucoup et radicalement ce que j'avais pu faire avant. Et je me suis tournée vers la boxe. Donc la première année, c'est un petit niveau, mais on commence les compétitions quand même. Ouais. Et je pense que ça m'a donné envie de continuer, de faire plus à chaque fois.
Ça inquiète pas tes parents au début, quand même? Parce que tu te dis, une petite fille de 12 ans et tout, la boxe, ça doit te faire flipper, quoi.
Si. Alors, ma mère était...
Ils sont pas du tout boxeurs, en plus.
Non, ils sont pas du tout boxeurs. Ma mère... Donc, sa fille passe de la danse classique à la boxe. Elle se dit, ok, d'accord. Pourquoi? Elle voulait pas trop, mais ma mère est d'avis à ce que je fasse ce que j'ai envie de faire, même si elle aurait préféré que je fasse autre chose. Ouais. Mon père était plutôt chaud, sauf qu'en fait, quand je suis arrivée à la salle de boxe, j'étais la seule fille. J'étais la seule fille. En plus, j'étais parmi les plus petits. Je me retrouve seule fille au milieu de plein de garçons. C'est quand même un sport de combat. Les garçons. Moi, j'avais 12 ans. On va dire que je boxais avec des mecs de 15-16 ans.
Ah ouais?
Donc du coup, ouais, c'est la peur, je pense. C'est vraiment, j'avais pas envie qu'il m'arrive quelque chose.
Est-ce qu'il y a un jour où tu t'es dit, où tu prends conscience en disant je peux devenir une championne?
Au départ, j'ai continué d'année en année. Les compétitions, ça me plaisait bien. Et je me suis dit, ah oui, ça serait bien que... la première fois que j'ai fait une compétition, c'est un championnat de France à petit niveau, mais je perds. Mon premier combat, je le perds.
À quel âge,
en fait,
c'est ça?
C'était à 12 ans. Mon premier combat, je le perds. Donc, en plus, il y avait mes parents qui avaient fait le déplacement. C'était pas forcément à côté, c'était dans le nord de la France et tout. Je le perds. Donc, forcément, j'étais dégoûtée. Et l'année suivante, j'avais envie de gagner. Donc, c'est comme ça, petit à petit, que cet esprit compétitif m'est venu. Et on s'abonne au magazine sportif de la Fédé. Voilà, il y a ce qui s'appelle France Box. Ça commence à venir tous les mois. Et on se dit, ah, c'est pas mal, il y a des compétitions internationales. On regarde, on s'intéresse. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis dit, ah, il y a une équipe de France, ça serait bien, pourquoi pas. Et arrivé à 17 ans, je suis convoquée à un premier stage avec des filles qui étaient déjà en équipe de France. Et c'est là où je me suis dit, ah, trop bien et tout. Il y a moyen peut-être de rentrer dans cette équipe de France et de faire des choses plus grandes. Et je fais ce stage-là. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, non, il va falloir que je rentre dans cette équipe de France. Et moi, je veux faire ça. Et moi, je veux devenir championne. Et c'était aussi au même moment qu'on commençait à parler de l'intégration de la boxe féminine aux Jeux Olympiques. Parce que la boxe n'était pas aux Jeux Olympiques avant 2012. Voilà. C'est la première fois où elle rentre aux Jeux Olympiques. Et à ce moment-là, on commence à parler de cette intégration pour 2008, pour les Jeux Olympiques de Pékin. Donc on en parlait, et moi, les Jeux, pour moi, c'est quelque chose de ouf.
Ouais.
J'ai toujours regardé les Jeux, tous les sports, c'est l'activité tous les 4 ans des vacances. En plus, on ne partait pas forcément en vacances, donc c'était vraiment pour moi un événement immense. Et j'y voyais plein d'opportunités, en fait. Je me suis dit, ah ouais, imagine, demain, je fais les Jeux. Déjà, sportivement parlant, ça va être incroyable, ça va changer ma vie. Et en plus de ça, en termes d'opportunités, ça va être juste dingue. Donc, vers 17 ans, je me suis dit, il y a moyen que je fasse quelque chose.
Et alors, et justement, comment, à 17 ans, quand t'es une ado normale, t'as envie de te faire la teuf, les garçons, les trucs, comment... Est-ce que c'est compliqué d'allier, en fait, l'envie de réussir sportivement avec la vie d'un ado normal? Est-ce que tu as l'impression de faire des sacrifices?
J'avais pas l'impression de faire des sacrifices parce que ce qui s'est passé, c'est que mon père n'a pas voulu que je fasse de boxe parce que j'avais 3 entraînements dans la semaine. toutes les semaines. Donc, pour mon père, c'était les études. En gros, le sport, c'est ceux qui arrêtent les études. Il est hors de question que tu fasses ça. Donc, il m'a même diminué. J'y allais deux fois par semaine. On a trouvé ce compromis pour que je continue à y aller. Donc, en fait, j'étais dans une dynamique où si j'arrivais pas à rester bonne dans les études, ça allait pas du tout passer par rapport à mes parents et par rapport à la boxe. Donc, faire la fête, tout ça, c'était très, très loin de moi, 17 ans. Mon père, il m'a dit, oui, déjà, ça sera à 20 ans que tu pourras sortir et que tu auras un copain. Donc, c'était vraiment très, très loin de moi, tout ça.
Et donc, justement, t'as pas l'impression, toi, tu te dis pas, genre, non, mais non, parce qu'en fait, t'es contente de là où t'es arrivée. Donc, en fait, tu te dis,
ouais,
on s'en fout
je me dis pas que j'ai raté des trucs parce qu'en fait, ce que j'ai vécu, c'est... J'ai vécu 10 fois plus de trucs par rapport à une personne lambda. Je peux pas me dire, j'ai raté des choses. Je voyageais dans tous les pays du monde. Je faisais des compétitions, je rencontrais tellement de monde, ça a été un accélérateur de vie pour moi, un accélérateur de maturité. J'ai fait les Jeux, j'étais championne, ma vie elle a changé. En fait, j'ai rien raté, j'ai tout gagné au contraire.
T'as gagné d'autres
maintenant,
trucs,
je m'accorde des moments de plaisir, je fais la fête, etc. Ouais, maintenant, mais ma vie en fait pour l'instant elle est bien, elle est comme je la veux. Aujourd'hui j'ai deux enfants, je suis encore en compétition. Je peux rien regretter, rien du tout.
J'ai lu que, alors t'avais pas beaucoup de temps, mais t'avais quand même un peu de temps pour jouer un peu aux jeux vidéo. On m'a dit que t'étais plutôt un peu gameuse quand t'étais plus jeune.
Ouais, je jouais beaucoup quand j'étais petite.
Tu jouais à quoi?
Mais au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Hein.
Jusqu'à quel âge? Ah, mais c'était en
non,
tout
au bout d'un
petit.
Moment, j'étais petite. Ouais. Ouais, je jouais à des trucs qui n'étaient pas trop pour mon âge, genre Resident Evil, tout ça.
Ouais,
mais à un moment, ça s'est arrêté parce que l'école et le sport, c'était plus possible. On va dire que vers... quand j'ai vraiment commencé à bien m'entraîner, j'ai commencé à 12 ans, on va dire qu'à 14 ans, ça commençait à être plus intense. Là, j'ai arrêté de jouer.
Ouais.
Mais depuis que je suis toute petite, je n'arrêtais pas de jouer. J'ai passé des heures et des heures le soir devant les jeux.
Et t'écoutais quoi, ado? T'as forcément des chansons... Moi, je sais pas, on a tous des chansons qui te rappellent une époque précise. Un
ah
truc.
Ouais, des chansons qui me rappellent un moment
un
précis.
Moment, ouais.
Ah, moi, j'étais R&B à fond, les Wallem, rap, tout ça. C'était la belle époque. C'était bien. Ouais, R&B, j'étais beaucoup R&B. Wallem, Kélia, les chanteuses à l'ancienne. Parce que j'aime beaucoup chanter, en fait.
Ah ouais?
Ouais, j'aime beaucoup chanter. Et du coup, avant, je chantais encore plus. Entre copines, des fois, j'avais une copine qui chantait aussi, qui fait chanter. On faisait des... Je sais plus comment ça s'appelle, le jeu, la vidéo.
Singstar.
Singstar.
Connu, le karaoké.
C'était l'après-midi, karaoké, on cassait les oreilles de tout le monde et tout, c'était trop bien.
Et tu fais gaffe à ton style ou pas? Pareil, parce que quand t'es ado, ça peut être ultra important de quand t'es au lycée, il faut avoir la bonne ça après.
Ouais,
truc
c'est vrai,
et tout.
C'est vrai. Oui. Forcément,
c'était quoi,
c'est venu.
Quoi, t'avais un style
c'est venu. En fait, j'ai tout eu. Au début, je m'habillais tout le temps en jogging quand j'étais vraiment petite, genre du CM2. En fait, c'est arrivé au collège, je crois. Arrivé au collège, ça a changé.
Bah, c'est là
peu.
Où tu commences, en fait.
C'est
à...
là,
en
vrai,
c'est
au collège,
tes parents
c'est là,
qui t'habillent,
quoi. Ouais, au collège, c'est là où je me disais, ah, mais j'aimerais bien mettre ci, j'aimerais bien mettre ça. Tu commences le maquillage.
T'as eu des styles honteux ça va.
J'ai eu tous les trucs possibles et inimaginables. En plus, on essaye de se coller un truc. Donc, moi, j'allais plus vers ma maman parce que je faisais souvent les courses avec ma mère. C'est pas forcément le style approprié à l'âge. Enfin, c'était n'importe quoi.
Et alors? Tu disais que tu n'avais pas fait de sacrifice, mais niveau bouffe, parce que pareil, j'ai vu que tu étais ultra fan de pâtisserie. Parce que pareil, là-dessus, tu n'avais pas eu l'impression de faire des sacrifices.
J'ai une alimentation correcte, hein, de manière générale, mais c'est vrai que j'ai eu des moments où je galérais à perdre du poids. Je me rappelle d'une année en particulier, c'était l'horreur. Et en fait, on part dans tous les pays, il y a des trucs super bons à manger, donc j'ai juste envie de manger. Et en fait, après, il y a la compète, t'as 2 kilos à perdre. J'ai eu une année en particulier très dure, où j'avais vraiment beaucoup de mal à perdre du poids, où je mangeais pas tous les soirs sur une semaine de compétition.
Ah ouais.
Le matin, je mangeais à peine pour tenir pour la compète. Enfin, ouais, ça m'est arrivé. Mais c'est comme tout, il y a des périodes. Cette année qui a été compliquée. Après, j'ai su réadapter les choses. Et on va dire que c'est toujours un peu à l'approche des compétitions où c'est plus compliqué. Mais sinon, d'ordre général, on peut quand même se faire plaisir. Et puis, même si j'aime tellement cuisiner, en fait, j'aime tellement faire de la pâtisserie que même si je le faisais pas pour moi, des fois, je le faisais juste pour les autres. Ça me faisait... bon. C'était mon bonheur, là, de faire pour les autres, de faire plaisir aux autres. Je ne pouvais pas manger. Je pourrais rien manger, même pas un carré de chocolat, mais je disais, je mangeais avec les yeux.
T'es la première française championne olympique de boxe. C'était à Rio. Et moi, je voulais savoir à quoi ça ressemble la vie, parce qu'il y a tellement de fantasmes sur le village olympique, sur toutes les histoires qui s'y passent. Est-ce que c'est vraiment si fou que ça ou pas?
Le
ou
village, c'est ouf.
Ouais.
C'est pas des fantasmes du tout.
Ça ressemble à quoi alors exactement?
Franchement, alors moi je l'ai vécu dans la compétition, j'aimerais bien le vivre un peu.
Quand t'as fini la compète en fait, genre mode.
En dehors, j'ai même pas pu parce qu'en fait. Je t'explique, les jeux, t'as des sports par exemple comme le judo, ils vont faire une journée de compétition au début et après ils font la fête en fait.
Ouais, ils restent jusqu'à la fin.
Le lendemain, jusqu'à la fin de la compète quoi, enfin la fin des jeux.
Toi c'est trop long en fait, ça se termine pile à la fin.
Moi c'était trop long en fait, donc en fait je l'ai vraiment vécu à fond, telle une athlète en compétition, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que j'allais même pas encourager les autres et tout, j'étais trop dans ma compétition. C'est pour ça que là j'ai dit je vais aller au Japon... Attendez-moi. Je vais pas faire de la compète, mais voilà. Et oui, c'est ouf parce que déjà, tu rencontres des stars internationales. Enfin, t'as tout en fait qui se mélange. Tout le monde est lâché à la même enseigne, tout le monde mange pareil. Et à la fois, on n'est pas pareil. Il y a des gens qu'on connaît pas, il y a des gens qui performeront pas, il y a des gens qui vont devenir des stars au sortir des jeux, il y a des gens qui sont déjà des stars, tu vois, les joueurs de NBA, tu vois, les mecs d'athlètes, enfin...
Ah, tu te balades, t'as LeBron James qui va chercher son pain...
Ah ouais, normal, complètement.
Putain, c'est incroyable.
Il est au self, tu te balades...
Il y a une grande cantine et tu peux manger à côté
de... La cantine est immense,
ouais.
Et il y a tous les pays qui sont représentés, tous les continents. Donc, le village olympique, c'est un bâtiment par pays... Des fois un peu partagé si c'est des petits. C'est-à-dire que nous, on a Monaco un peu.
Il y a Monaco et
ouais, dans notre tour.
Ils sont deux.
Ils sont tout petits.
Ils ont une suite.
Dans un coin. Et il y a le self qui est immense. Tous les continents donc représentés. Tout ça en accès libre, en illimité. Donc forcément, sport à catégorie de poids, ouais. Faut pas s'enflammer. Voilà. Ouvert 24 heures sur 24. Il y a aussi les sponsors des jeux. Donc forcément, McDo en illimité.
Et il y a un McDo dans le village olympique.
Ouais, il y a un McDo dans le village olympique, en illimité. Donc, pareil, ça fait partie des trucs un peu bizarres, mais c'est les jeux, il faut être concentré. On va pas aller au McDo tous les jours, quoi, si t'es tenté. Ça fait partie des sponsors. Comme il y a un McDo, comme il y a le truc, je sais plus c'était quoi, je crois que c'était Samsung à l'époque, pour les jeux, où tu testes les trucs 3D. Enfin, c'est sympa, t'as la possibilité un peu de sortir un peu de ton truc le temps d'un moment, parce que ça fait aussi du bien, hein. C'est quand même oppressant comme compétition. Mais il faut pas, faut rester concentré. Faut rester concentré. Il y a des grands joueurs, il y a des grands champions, mais c'est toi qui es là pour ta compétition. Il faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'il y a des athlètes qui viennent sur les jeux et qui se cassent la gueule parce qu'ils sont pas prêts, parce qu'ils sont impressionnés partout. Voilà. Après il y a le temps aussi où les athlètes, il y en a qui sortent de compétition, donc c'est la fiesta. Pour t'expliquer un peu l'organisation, par exemple par rapport à nous, il y avait des gens qui étaient sortis de compétition, mais en bonne intelligence, si le groupe est soudé, et nous c'était le cas, on va faire en sorte de ne pas déranger l'athlète qui est sorti. Même si c'est dur, même s'il y en a qui ont envie de faire la fête, bah, ils vont faire la fête de leur côté. On se connaît tous hein, en tant qu'entre athlètes, et puis même si on ne se connaît pas, on finit par se connaître.
Ouais.
mais voilà, on fait en sorte de ne pas déranger. Bah, y en a qui, ça dérange, ça n'empêche pas qu'il y en a qui partent faire la fête, qui sortent de la compétition. Et finalement, c'est des chambres en fait. On a des chambres de... Ouais, 3-4, on est 3-4, peut-être pas forcément dans le même sport, des fois on est mélangé à d'autres sports, et on s'organise petit à petit au fur et à mesure de l'avancée de la compétition. S'il y en a qui sont sortis, bah, on change, on switch, bah, toi tu viens dans ma chambre, toi tu viens dans la chambre, pour garder ceux qui sont concentrés dans la compétition encore entre eux, parce que
sinon,
c'est sûr que
si
ça fait la fête dans
heures,
la même chambre et qu'à 3h du matin, ça crie encore, c'est compliqué.
Alors moi, si j'avais gagné une médaille d'or au JO, je serais direct parti en vacances, mais pas toi. Toi, t'as utilisé ta notoriété pour monter une asso.
Oui, Elperf. C'est une association que j'ai montée juste après les Jeux. J'étais enceinte. J'avais rien à faire. Et je me suis dit comment je peux faire quelque chose d'utile. Et du coup, c'est pour ça que j'ai monté cette association, parce que j'avais envie, à ma manière, d'aider les sportives et les prochaines, peut-être championnes. Je trouvais que ce que j'avais fait était grand, mais que ça m'avait demandé trop d'efforts et que j'aurais pu pratiquer mon sport peut-être plus facilement pour en arriver là. Et ça se trouve, j'en serais arrivée là avant aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette association. C'est trois pôles. C'est un pôle qui aide les sportifs dans tout ce qui est médico-juridique. Et on se tourne plus vers des problématiques qui sont assez féminines. C'est-à-dire, quand je dis médical, c'est, je ne sais pas, pourquoi je prends du poids, est-ce que j'ai des dérèglements hormonaux, ce genre de choses. Mmh. L'avortement aussi, dont on ne parle pas. Mais moi, j'ai connu des cas, des filles qui avortent à 2 semaines d'une compétition. En fait, c'est des choses dont on ne parle pas. Mmh. Mais le sport, c'est la tête, c'est le corps aussi. Donc, forcément, s'il y a des choses qui. Au niveau de notre corps qui ne vont pas, on peut faire des contre-performances. Donc il y a ça, deuxième pôle de pause de carrière, je suis tombée enceinte, je me suis dit comment je vais revenir, il n'y a personne qui est là pour m'aider. Je savais que j'allais le faire de moi-même, j'avais les moyens d'eux, après les Jeux, voilà, j'ai eu des moyens aussi financiers pour le faire. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et surtout le sport en France, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui ne sont pas rémunérés, qui vivent très mal de leur sport, donc comment trouver une solution pour les accompagner. Et forcément, un côté un peu reconversion professionnelle, parce que je pense qu'il y a plein d'athlètes féminines qui veulent s'investir sur des postes importants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a deux présidentes de fédérations sur toutes les fédérations olympiques. Et on en a beaucoup des fédérations olympiques. Ouais. Donc il est temps que les choses changent.
Assez jeune, finalement, tu deviens championne olympique de boxe. J'imagine que ça change tout, t'es très exposé, très vite. Quel rapport tu as avec la célébrité ou comment t'as géré ça en fait ?
Oui, ma vie elle a complètement changé après les Jeux, très exposée, c'est-à-dire que en fait.
On te connaît dans la rue.
Partout. Ouais. Je vais partout. Ouais. Alors c'est bien, hein ? C'est bien dans un sens parce qu'en fait au début c'est nouveau, donc c'est cool, c'est excitant et tout, ah, c'est sympa. En plus. Les sportifs, en général, c'est vachement positif. Et surtout, après les Jeux, après une telle victoire, c'est hyper positif.
Bien sûr.
Les messages sont hyper positifs. Donc, ça fait du bien. Et puis forcément, au bout d'un moment, on a juste envie de ne pas se faire reconnaître quand on va faire les courses. Parce qu'au lieu de mettre 30 minutes pour faire les courses, on met une heure à faire les courses. Mmh. Et y a eu le moment où ça devenait limite... Je n'allais plus faire les magasins et tout. Ça, c'était réglé. Ouais. Et j'avais peut-être même envie qu'on me reconnaisse plus. Ça m'aurait
arrangé. Ça t'a manqué après.
Ouais. Mais sinon, c'était... Voilà, comme je l'ai dit, c'est toujours des messages positifs. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Je pense que ça doit arriver à certaines personnalités d'avoir des choses un peu plus brutales, brusques.
À chaque fois qu'on m'arrêtait, c'était pour me dire oh, bravo. Tout,
non.
Même les réseaux sociaux et tout, c'est. Ouais.
Non, même là, d'ordre général, les réseaux sociaux, c'est assez cool, même si, il y en a toujours un. Hein. Ouais. Il y en a toujours,
quoi
mais.
Que tu fasses.
Mais c'est plus par rapport aux personnes qui t'interpellent dans la rue. C'est toujours positif. Même si les haters, en général, c'est sur les réseaux sociaux, parce que les gens qui t'interpellent dans la rue, c'est pas des haters.
ou bien le mec qui dit ça sur les réseaux sociaux, quand il te croise dans la rue, il te dira pas ça.
C'est comme mon mari, les haters, c'est que lui, sur les réseaux sociaux. Dans la rue. Je veux dire qu'il y a personne qui l'interpelle dans la rue. Mais, donc du coup, ça va. Ça, même si c'est bon, des fois, c'est relou, c'est chiant, tu vois, tu es là avec tes enfants et tout, on te demande des photos. Mais comme ça reste agréable et ça reste gentil, ça va.
Et est-ce que tu as eu l'impression, à un moment, de dire « je prends la grosse tête » et de te rendre compte, de réagir ou... Même ça, en vrai, c'est naturel. Hein, quand tout le monde est là sur toi à te dire que tu es la plus merde, la plus forte, le machin, ou à un moment, tu exploses et tu t'en rends compte.
J'ai pas l'impression que j'ai pris la grosse tête à aucun moment parce que je pense, au bout d'un moment, j'étais un peu fatiguée de tout ça et j'ai pris beaucoup, beaucoup de recul. Et prendre du recul pour moi, c'est rester avec les gens qui étaient là depuis le début, ma famille, mes amis proches. Et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de garder les pieds sur terre. Et y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie après ça. Je suis aussi devenue maman juste après les Jeux. J'ai eu pas mal de choses à gérer dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Donc en fait, c'est tout un tas de choses qui a fait qu'à chaque moment, je garde plutôt les pieds sur terre et je me dis, c'est bien ce qui m'est arrivé. Je fais en sorte d'en profiter, de m'en servir. Ma carrière n'est pas terminée, mais c'est pas ça qui va me faire vivre pleinement. Voilà, ce qui me fait vivre pleinement aujourd'hui, c'est mes amis qui sont là, c'est ma famille, c'est mes enfants maintenant. Et tout le reste, je m'en sers professionnellement parlant. Ça m'aidera professionnellement parlant, mais le milieu professionnel, c'est pas la vie.
On arrive à la fin de l'entretien et on va finir avec un panthéon personnel. En gros, je vais te demander un bouquin, un film culte, un acteur, une actrice, une chanson. Si tu dois en choisir un, par exemple, on commence par un bouquin.
Je lis pas beaucoup. Je lis très peu même.
Mais on m'a dit que pendant le confinement, tu t'étais commandé un livre sur l'Égypte antique.
Ouais, mais là en ce moment, je lis la Bible.
La Bible ?
Ouais, je me suis dit que en fait.
Un gros bouquin.
C'est un gros bouquin. Je t'avouerai que je me suis mise à lire la Bible là, parce que je me suis dit, en fait, finalement, je me dis catholique, mais il y a beaucoup de choses que je connais pas, donc je me suis dit, allez, j'ai le temps, on est confiné, je lis ça, et je t'avouerai que c'est tellement énorme que j'ai pas vraiment le temps de lire autre chose. Et si je prends du plaisir, c'est à regarder des séries.
Et alors, du coup, c'est quoi la série ? Ça peut être celle du moment.
J'oublie les noms des séries. Ne m'en veux pas.
Vas-y,
mais,
on va retrouver.
Mais tu vas retrouver. Il y a une série avec une fille qui joue aux échecs.
Ah, Le jeu de la dame.
Le jeu de la dame.
J'ai vu, très
trop bien.
Ouais.
Oh là là, ça, c'est la dernière série que j'ai regardée. Ouais, là, j'ai arrêté parce que je l'ai terminée en deux jours, mais ouais. C'est la dernière série que j'ai regardée, Le jeu de la dame. Moi, j'ai un problème avec les noms. Hein. Entre les noms des chansons, les noms des séries, les noms des films, je peux te dire tout ce qui se passe dedans, mais j'oublie le nom.
Donc, si je te demande la chanson, tu vas plus la chanter que la.
Ouais,
que
c'est ça, je vais plus la chanter.
C'est quoi la chanson, du coup, en ce moment ?
En fait, j'ai une amie qui est chanteuse et qui vient de sortir une chanson. Et du coup, elle me tourne en boucle dans ma tête.
C'est qui la chanteuse ?
Chez Zao.
Ah,
elle a fait un feat en plus. Je sais même pas le nom du mec avec qui elle a fait un feat. Mais. Attends, je vais te la chanter vite.
Vas-y.
J'ai la Rolex. Remplace-moi la dot. Je remplace mes faux potes. Voilà.
C'est feat avec qui, du coup ?
Alors, du coup.
Comment
c'est avec. TK.
Ok. Ouais. Si t'as un acteur et une actrice culte, ce serait qui ?
Denzel Washington.
Ouais.
En plus, on en parle beaucoup en ce moment, il vient d'être élu meilleur acteur. Je le kiffe.
Ouais, il est trop stylé, Denzel.
Ouais, il est stylé, en plus, il est très bon.
Bah voilà, c'est fini. Merci beaucoup, Estelle.
Merci.
C'était super cool de discuter avec toi.
Au top, merci.
Et puis, tout le meilleur pour la suite et tout, quoi.
C'est gentil. Merci.
Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et mettez des petites étoiles si ça vous a plu. Comme ça, on sera mieux référencé et on pourra dépasser les grandes gueules au classement des podcasts. Et ça, c'est quand même pas mal la classe. Merci d'avoir écouté Champion. À la prochaine. Salut.
It's Owen Murphy here, and we want to talk about the good people at Now who are sponsoring this episode and have some exciting news to tell us about the return of the Formula One season, which kicks off on March 2nd.
Oh, well, this sounds great, but where do I catch all of this high-octane action?
Murph, you can stream all the F1 Sky Sports action without a contract for just €20 a month for 12 months with a Now Sports membership. If Formula One's your game, then Now is the name.
You're really revving my engine, McDevitt.
Ah, pit stop it with all the puns, Murph.
At Electric Ireland, in addition to our recent price reductions for all customers, our new customers will be welcomed with a discount of 24% off electricity plans. So switch today at electricireland.ie or call 1800 30 50 90. Electric Ireland, making your bill smaller and your world brighter. EAB €1,394 electricity based on discounted unit rates, PSO, levy and VAT. Decrease in EAB from 1st of March 2024, subject to change. Terms and conditions apply. See electricireland.ie.